c'est là, hein, c'est ça. Avant, c'était sur la scène, là. C'est ça, bon, vous me connaissez pas vraiment, mais moi, je suis un vieux de la vieille. Je me suis converti en 73 en même temps que François Fréchette, la même année. Puis, on était, François et moi, puis quelques autres, on a fondé l'Assemblée de la Rive-Sud, qui est devenue à Saint-Jean-Chrysostome. Puis, quand on était à Saint-Romuald, Laurence Fortin se demandait si elle allait à Sainte-Marie ou non. Il priait pour ça. Puis M. Cox était là. Ça fait que j'ai connu M. Cox quand il était à Saint-Anne-des-Monts. En 89, on a quitté l'Assemblée juste avant qu'il aille à Saint-Jean-Chrysostome. Puis on a été pendant 24 ans dans deux autres églises où j'ai été ancien. Puis on est revenu en 2017. Donc ça fait depuis 2017 qu'on est revenu à l'église de Saint-Jean-Chrysostome dans nos vieilles pantoufles. Le témoignage de Jonathan nous a touchés, mais je lui ai parlé après, puis il connaît un de mes grands amis, qui est le chef dépisteur des remparts, Marc Chamard. Il le connaît depuis longtemps. Puis si Marc n'était pas en Tchécoslovaquie pour un tournoi de hockey, on écouterait le Super Bowl ensemble à soir. Depuis 20-25 ans, on écoute le Super Bowl. Donc, il n'est pas chrétien, mais c'est un chic type. Puis quand je vais dire que j'ai rencontré Jonathan Ferland, ça va être parce que j'ai déjà donné un petit feuillet, une petite brochure sur des joueurs de hockey convertis. Il y avait Ryan Walters, M. Pronovo, Bouchard, le gardien de but. Mais il ne m'est jamais revenu là-dessus. Mais en tout cas, ça va être... Franchement, le Seigneur a fait un beau clin d'œil ce matin. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. Puis, donc, les 10 premiers versets. Je vais les lire. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée par eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé par la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Moi, j'arrête là, puis Martin il va continuer, lui, dans audacieux et arrogant, là, il va parler du 10b jusqu'à la fin du chapitre. L'épître de Jude puis l'épître de Pierre sont très, très, très proches. Il y a 13 versets qu'on voit dans 2 Pierre ici, 2 Pierre 2, qui ont une correspondance directe dans Jude. Il y a 5 versets de 2 Pierre 3, dans le chapitre 3 de 2 Pierre, qui ont une correspondance directe dans Jude. Puis il y a 14 versets sur 25 dans Jude qu'on retrouve dans 2 Pierre. Donc, ça vaut la peine de lire Jude en même temps que lire 2 Pierre. Vous allez voir les correspondances. Puis les commentateurs ne s'entendent pas à dire qui a influencé qui. Probablement Pierre a influencé Jude, mais il n'y a pas de... de preuve directe là, sur laquelle qui a influencé l'autre, mais il y a sûrement il y a une influence réciproque. Même dans Jude 3, on lit la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Puis dans 2 Pierre 1, la foi qu'on a reçue en partage. Puis dans les deux cas, la foi, c'est ce qu'on a reçu. C'est pas la foi pour croire, mais c'est le message. Donc, il y a vraiment une correspondance. Donc, la foi qui a été transmise, on l'a reçue en partage, puis c'est ce qu'on va partager ici ce matin. Donc, il y a trois sujets que je voudrais traiter. Donc, les faux docteurs. Lot le juste. C'est un drôle de... si c'était pas écrit là, j'aurais jamais... j'aurais jamais dit ça, hein, n'est-ce pas? Puis l'homme pieux ou la femme pieuse. Donc, les faux docteurs. Au verset 1, on voit, il y a eu de faux prophètes, de même, il y aura de faux docteurs. Ça semble inévitable, hein? Dans Matthieu 18:7, le Seigneur dit, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Donc, ce matin, il faut qu'on soit sur nos gardes. On reçoit un avertissement. Parce que ça va arriver. Puis dans toutes les églises, dans tous les milieux, il y a toujours des choses malheureuses qui arrivent. Puis il faut qu'on se prépare pour ça, pour éviter le plus possible les problèmes qui peuvent en découler. On va lire dans Matthieu chapitre 7. On va lire une couple de passages qui vont être parallèles à ça. Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, les loups ravisseurs, les séducteurs sont le plus dangereux quand ils sont en présentiel, parce qu'ils nous éblouissent. On dit « Ah, wow! » Mais à un moment donné, les fruits sortent. Puis Seigneur Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Puis les fruits qui viennent de ces faux docteurs-là sont les divisions, des rébellions. On a parlé de la théorie, toutes sortes de théories, en tout cas, qui peuvent arriver. Comme on va voir plus loin, la sexualité désordonnée, la confusion des genres, les divorces. J'ai connu des conseillers chrétiens qui ont provoqué des divorces par leurs conseils. Puis les gens, allaient de bonne foi, là, surtout la dame. Puis, le fruit de ce conseil-là, ça n'a pas été bon. Dans Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, si quelqu'un, même un ange, prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Dieu merci, on a la parole, on a sa parole, puis c'est elle qui va nous guider, puis qui va nous assurer qu'on marche dans la vérité, qui va nous permettre aussi d'évaluer si ce qu'on nous dit... est vrai ou est pas vrai. Il y a plein de théories, il y a plein de gens qui vont arriver avec toutes sortes d'expériences, même des expériences. Si c'est pas conforme à la parole, on ne doit pas donner suite à ça. Il y a des dernièrement, dans les dernières années, il y en a qui disaient que l'enfer n'existait pas. Ben, je suis le premier à souhaiter que l'enfer n'existe pas. C'est quelque chose de terrible de penser à l'éternité loin de Dieu, mais l'enfer existe. Il y a même des chrétiens bien placés qui ont enseigné ça, où ils ont dit qu'après la mort, tout est fini, l'annihilation. C'est séduisant, mais ce n'est pas la parole. Vous entendez des fois quelqu'un dire « on va envoyer nos problèmes dans l'univers ». L'univers, c'est pas Dieu, c'est ceux qui adorent la créature au lieu du créateur. Puis même ceux qui disent avoir eu des songes, il faut rester vigilant parce que nos songes, souvent, c'est nos pensées. Ou même, ça peut venir d'ailleurs aussi. Là. Donc, restons fidèles à la parole, c'est elle qui va nous garder dans la vérité. Depuis les 50 dernières années, j'ai vu toutes sortes de choses, puis la seule chose qui m'a permis vraiment de discerner le bien du mal, le vrai du faux, c'est la parole de Dieu. Elle ne trompera jamais. Qu'est-ce qui nous protège contre les faux docteurs? Eh bien, c'est les anciens dans l'Assemblée. C'est leur rôle. Un ancien, c'est appelé à être un berger. Puis le berger, il prend garde du troupeau, puis il empêche les loups de venir. Dans la même épître, on va regarder au chapitre 3, au verset 1. Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à veiller par des avertissements votre saine intelligence. Donc, l'apôtre Pierre, c'est la deuxième épître qu'il envoie, puis il veut préserver les églises. Puis dans celle-là, c'est en particulier beaucoup, beaucoup sur les faux docteurs. Au verset 13 du chapitre 1. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Cette épître-là, c'est une épître d'avertissement. Dans le chapitre 5 de la première épître, au verset 1 Pierre 5, 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ en participant de la gloire. Moi, ancien comme eux. C'est aux anciens que revient cette responsabilité. Puis s'il s'introduit des faux docteurs dans la bergerie, des loups dans la bergerie, c'est de la faute aux anciens. Ils n'ont pas pris leur responsabilité devant Dieu. Puis, ça m'arrive des fois, on va être accueillant, on accueille plein de gens de toutes sortes d'arrière-plan. Puis c'est souvent des frères et des sœurs. Puis je pense que des fois, on n'est pas assez vigilant. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 14, on le connaît bien, je vais vous lire. « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Donc, ça prend de l'expérience pour être capable de discerner entre le bien et le mal. Puis, c'est le mot ancien le dit bien, ce n'est pas des jeunes chrétiens, c'est des gens qui ont de l'expérience puis sont capables de veiller sur le troupeau. C'est quoi les caractéristiques des faux docteurs? Au verset 2, on voit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc, ils ont du succès. Et ils ont du charisme. Ils flattent dans le sens du poil, puis ils répondent aux désirs de la chair. Donc, c'est des désirs mauvais, mais ils sont présents. Puis si on est capable d'aller les chercher, on peut aller entraîner les gens après nous. Donc, c'est des gens qui ont du charisme. Au verset 3, la cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils sont capables de nous embobiner pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, dans nos assemblées, ce n'est pas un problème vraiment, mais on connaît l'évangile de la prospérité. Ceux qui disent « Donnez-moi 100 piastres, je vais l'avoir 1000 piastres. Donnez-moi 1000 piastres, je vais l'avoir 100 000. Donnez-moi 1 million, je vais l'avoir... » Puis ces gens-là, sans la moindre gêne, ils sont des multimillionnaires. Ils vivent dans des châteaux, puis ils prennent de l'argent de gens souvent pauvres. Ça, en Afrique, ça arrive. Aux États-Unis, les plus connus, c'est Benny Hinn. Son neveu, il écrit un livre pour dire comment c'était une fraude, ce gars-là. Paula White, une évangéliste une prédicatrice qui était à la Maison-Blanche avec Donald Trump, Kenneth Copeland. Quand on la regarde dans les yeux, moi, je pense qu'il est possédé, ce gars-là. C'est effrayant. Puis lui, il est très, très, très riche. Le plus riche de tous, c'est au Brésil. Edir Macedo Bezerra, lui, il vaut plus qu'un milliard. Il y a des postes de télévision, il y a des avions, il y a même un parti politique. Ces gens-là vivent dans des richesses, c'est indécent. Donc, la cupidité peut amener les gens dans des ministères. Puis l'Évangile de prospérité dit « Vous ne serez jamais malade, vous allez être riche. » C'est pas ça, la vie, hein? Le Seigneur ne nous appelle pas à la prospérité, il nous appelle à porter notre croix. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être prospère. Non, si on travaille bien, puis on récolte le fruit de nos... Mais on n'est pas appelé à une vie de bonheur et de délices matériels. On est appelé à une relation avec Dieu en premier. Le Seigneur Jésus dit, « Le bon berger donne sa vie pour les brebis, mais le mercenaire s'enfuit lorsqu'il voit venir le loup. » Le mercenaire, c'est lui qui travaille pour l'argent. Tandis que les anciens devraient travailler pour la bonne raison. Dans 1 Pierre 5, 2, c'est juste à côté, on peut le lire. Pierre dit, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Donc, à ceux d'entre nous qui sommes anciens, moi je suis ancien à Saint-Jean, ça c'est des versets qui nous parlent vraiment. Donc, le cœur d'un ancien devrait être à la bonne place. Puis s'il n'est pas à la bonne place, on va le voir. Ça va paraître. Dans 1 Timothée 6, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Si on cherche, notre but dans la vie, c'est de s'enrichir, on court après des problèmes. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. L'argent, puis tout ce qui en découle, c'est un piège, puis ça peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes, puis dans les faux docteurs, justement, ils sont attirés par ça en premier. Donc, ils ont du succès, la cupidité, puis aussi, au verset 10, « Ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Il y a eu des chrétiens qui disaient avoir des relations sexuelles, c'est pas grave. Tous les gourous ont ça avec leur groupie. Hein. Il y a eu au début de l'Église, en tout cas, des philosophies qui disaient que l'âme est plus élevée que le corps. Fait que le corps, peu importe ce qu'on faisait avec, là, c'était pas grave. Puis dans ce temps-là, il y avait des relations sexuelles, puis il y avait de la débauche. Puis les gens, ils ne voyaient pas que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, je pense que ça ne marcherait pas, mais ça va ensemble. Parce que ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Puis une des choses qui les caractérisait, c'était la débauche. Puis au verset 11 et 18, on n'en ira pas, mais ils portent contre elles des jugements injurieux. Puis au verset 18... Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair. Ils sont orgueilleux. L'orgueil, ça caractérise les faux docteurs puis les faux prophètes, tandis que le serviteur de Dieu devrait être caractérisé par l'humilité. L'humilité, c'est pas donné d'emblée. Hein. On n'est pas tous humbles en partant, mais c'est quelque chose qui est un fruit de l'esprit puis que le Seigneur Jésus, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez du repos, car je suis doux et humble de cœur. » L'humilité devrait caractériser les conducteurs, puis caractériser tout croyant aussi. Là. Donc, en résumé, les caractéristiques des faux docteurs, ils sont cupides, ils sont orgueilleux, puis ils vivent dans la débauche. Puis qu'est-ce qui mène le monde aujourd'hui? c'est l'argent, le pouvoir, puis le sexe. Donc, ils sont caractérisés par vraiment ce qui mène le monde le plus profondément. Puis, qu'est-ce qui arrive à la fin, au verset 1? Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Au verset 4 à 6, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges, mais les a précipités dans les ténèbres, puis s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dans ce prédicateur de justice, et s'il a condamné à la destruction, réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, donnant en exemple aux impies à venir. Il va y avoir un châtiment sévère. » Au verset 9, « Et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. » Puis au verset 12 et 17, « Ils vont périr par leur propre corruption et l'obscurité des ténèbres leur est réservée. » Donc, la fin des faux docteurs est terrible. Il n'y a rien d'enviable, malgré quelques moments de réjouissance temporaire. Donc, comment reconnaître les faux docteurs? Par leurs fruits, par leur motivation. Puis notre référence pour nous en garder, c'est la parole de Dieu. Au verset 7 et 8, c'est des versets étonnants. « Et s'il délivre, à la délivrer Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Si ce n'était pas écrit là, moi, j'aurais jamais pensé ça de Lot. Parce qu'il a choisi de s'établir à Sodome. Hein, il avait le choix. C'est une ville de débauche. Quand les anges sont arrivés, il a offert ses filles en échange des anges aux habitants qui voulaient connaître les deux invités. Quand le feu a détruit Sodome et Gomorre, sa femme n'a pas suivi les consignes. Hein. Il a dit « Retourne-toi pas, retournez-vous pas ». Elle s'est retournée de bord et est devenue, était changée en statut de sel. C'est pas la compagne idéale, peut-être même qu'elle n'aidait pas dans, dans sa vie. La compagne, il n'y a pas de grand homme, on dit, sans une femme, une grande femme derrière. Il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de personne qui a un ministère fructueux si son épouse n'est pas à ses côtés, puis si son épouse n'est pas fidèle. Les Moabites puis les Ammonites, hein, n'est-ce pas? Ils sont le fruit d'un inceste de Lot avec ses deux filles, la plus vieille et la plus jeune. Ils ont couché tour à tour avec Lot. Ils l'ont enivré. Donc, ses filles avaient la... On voit ce que ça donne, une famille chrétienne qui enseigne, les résultats dans la... Donc, lui, ses filles, il n'y avait pas de moralité tellement, tellement forte. Donc, on peut dire que Lot a été sauvé littéralement puis spirituellement, comme au travers du feu. Hein, dans 1 Corinthiens 3, on lit que... On va le lire. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du jaune, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu réprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme, mais comme au travers du feu. Moi, je pense que Lot a été sauvé comme au travers du feu. Puis même le feu du ciel est descendu sur... Il aurait pu... S'il était resté là, il serait mort comme les autres de Sodome et Gomorre. la leçon à tirer de ça, de la vie de Lot, parce qu'il dit, Lot tourmentait journellement son âme juste. Ça veut dire qu'un vrai croyant, il ne peut pas être bien loin du Seigneur, loin dans le monde. Il ne peut pas être confortable dans le péché. Mais malheureusement, s'il persiste là-dedans, il va être sauvé comme à travers du feu, mais il ne pourra pas être utile pour le Seigneur. Quelqu'un qui est pas, qui marche pas dans la sanctification ne peut pas être un vase d'honneur. Donc, c'est possible, malheureusement, de vivre puis de manquer sa vie au service de Dieu puis être sauvé comme au travers du feu. Quand j'étais jeune, je m'identifiais beaucoup à Joseph et à Daniel, c'était mes modèles. On était zélés, on était engagés, puis on regardait certaines personnes, on disait, mais ils sont pas zélés. Puis en vieillissant, je me suis rendu compte que je ressemblais plus à Pierre puis à David. des humains faillibles, mais que Dieu a quand même utilisés, Si on lit dans Luc 22, quand Pierre le trahit, c'est un beau passage. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Si on s'imagine la scène dans le jardin, là, dans la cour, le Seigneur Jésus est apostrophé par le Pierre, il dit non, je ne le connais pas. Même il a juré. Puis là, le Seigneur Jésus, il regarde Pierre, il voit le Seigneur Jésus. C'est effrayant. Il a dit, ça a dû le percer jusque dans le plus profond de lui-même. Puis il est sorti, puis il a pleuré amèrement. Combien de fois, on peut avoir pleuré amèrement, n'est-ce pas? Puis après son adultère avec Bathsheba, suivi par le meurtre d'Uri, puis ces deux péchés-là étaient punissables de mort sous la loi. David a écrit le psaume 51. C'est probablement la plus belle prière de repentance de toute la Bible. Puis il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Les sacrifices sont agréables à Dieu. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et confit. » Je pense qu'on a tous, à un moment donné, pleuré amèrement ou avoir eu un cœur brisé et confit, et contrit. Puis c'est cette tristesse, selon Dieu, qui nous ramène dans le droit chemin. 2 Corinthiens 7, 10. « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » On donne souvent comme exemple les remords de Judas. Ils l'ont amené à se pendre. Tandis que la tristesse de Pierre l'a amené à se repentir, puis il est devenu par la suite utile. Le Seigneur Jésus s'en est servi. Donc, on peut se repentir, on peut pleurer, on peut avoir un cœur brisé et contrit, et c'est ce qui nous ramène dans la bonne voie. Mais si on pêche, si quelqu'un commet l'adultère, il peut ruiner son ménage, il peut détruire sa famille, il y a des conséquences, Puis quand David, après son péché, dans 2 Samuel 11, 12, Nathan lui dit, « Maintenant, l'épée ne s'éloignera point jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. » qui couchera avec elle à la vue de tout le monde. » Puis ça, c'est Absalom, son propre fils, qui a fait ça. Puis il a été obligé de fuir parce qu'il y avait une rébellion dans son royaume. Tout ça à cause du péché. Oui, Dieu l'a pardonné, mais il y a des conséquences. Puis François me dit souvent que M. Bernier lui disait, dans certaines circonstances, probablement à cause de l'adultère, il dit, « Pense aux conséquences. » Pense aux conséquences. C'est une chose qui peut nous aider à s'éloigner du péché. Puis le fils adultérin est mort. Malgré une journée de jeûne, le fils adultérin est mort. Alors, oui, il y a quelque chose qui... tu sais, David, c'est un exemple. Parce que dernièrement, on étudie le livre des juges de Samuel. Puis dans Samuel, on voit comment David, c'était un homme qui était bien disposé puis que Dieu a béni. Puis dans le premier livre des rois, on lit « Mais à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui a donné à Abijah, c'était un de ses descendants, une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. » Cette tâche-là est indélébile, puis elle a gardé même. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été... C'est triste, c'est les conséquences du péché. Puis quand on fait cette étude-là, on se rend compte qu'on est de la même nature que lui. Ce qui est arrivé à David aurait pu m'arriver. Il y a des moments donnés où j'aurais pu... c'est effrayant de raconter. C'est pour ça aussi qu'il faut être sur nos gardes. On partage la même nature que Lot, que Pierre et David. Nous aussi, on est faillibles, puis on doit reconnaître que nous avons des faiblesses. Bien, en Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens 10, à partir du verset 10. Je me rappelle souvent ces versets-là. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 10. À partir du verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, l'histoire de David en l'occurrence. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, il faut qu'on garde ça tout le temps. Il ne faut pas se penser au-dessus. Pas se penser à l'abri du péché. Il faut pas se dire, ah, moi, je suis chrétien depuis tant d'années, j'ai plus de problème avec ce péché-là, j'ai plus de problème. Il faut jamais, jamais. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, ça peut être l'épreuve aussi, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, on a à notre disposition les moyens pour résister. Mais il faut être conscient que ça nous vient de Dieu, puis pas compter sur nos propres forces, puis se rendre compte que nous aussi, on peut tomber. Moi, ça m'est arrivé quand on a quitté l'Assemblée de Saint-Jean. Pendant quelques années, on était dans une autre église, puis j'étais... À l'époque où j'ai quitté Saint-Jean, j'étais impliqué jusque-là. Puis j'étais sur le point d'être nommé ancien. M. Cox était venu me voir. Puis quand on a changé d'assemblée, on est dans une assemblée qui n'était pas dans le réseau. Fait que j'ai perdu mes mentors. M. Bernier, je l'ai perdu pendant quelques années. Ça a pris des années avant que je puisse retourner le voir. M. Cox, M. Buttry, tous ces gars-là. Donc j'étais un peu dans une période de flottement. On était à l'église, mais j'ai flotté pendant 3, 4, 5 ans. Puis pendant ce temps-là, tranquillement, puis j'ai fait des choses dont j'ai honte aujourd'hui. Je ne vous raconterai pas. Puis le Seigneur m'a repris. Puis tranquillement, je me suis réimpliqué à l'église. Je suis devenu diacre. Après ça, président du CA. Puis après ça, ancien. C'est l'église Bonne Nouvelle. Les locaux dans lesquels ils sont aujourd'hui, c'est moi qui ai signé les papiers pour l'acheter. Donc, on peut revenir... Mais on peut s'éloigner ou se refroidir ou se relâcher. Puis il y a une chose qui m'a gardé, qui nous a gardé, c'est qu'on n'a jamais arrêté de fréquenter l'Assemblée, l'Église. Si on arrête de fréquenter l'Église, on est fait, parce qu'on a besoin les uns des autres. Puis l'image que j'ai de cette période-là, ces quelques années-là, c'est l'astronaute qui répare la station spatiale. Mais il est attaché avec un câble d'acier. Si le câble coupe, il est parti. Ben, j'étais un peu comme ça, j'étais flottant. Mais j'étais attaché. Puis ça m'a gardé, ça nous a gardé. Restez attachés à votre assemblée. Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Un chrétien seul, il ne peut pas subsister. C'est comme une bûche, hein, l'image. Une bûche, un foyer ou un feu qui brûle beaucoup. Les bûches sont ensemble, ça se consomme, ça produit de la chaleur. Mais tu prends une bûche, tu es à ma côté, elle va s'éteindre. Mais si tu quittes ton assemblée, c'est ce qui va t'arriver. Puis, on peut te ramener une culpabilité qui nous rend inefficaces. Là. Pendant longtemps, tu remènes ces vieux péchés-là, mais ça, si tu vis dans la culpabilité, ben, tu n'es pas efficace. Hein. Il faut être libéré, puis on peut être pardonné et purifié de toute iniquité. Puis ça nous aide quand même à ne pas recommencer. Je vais finir. Le cœur, le verset, le clé que je trouve de ce passage-là, c'est le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Les hommes pieux. C'est quoi être pieux? C'est d'être attaché aux choses d'en haut. En anglais, ils disent godless, godliness. Ça veut dire la faculté d'être attaché à Dieu. Lot, il a pu être délivré parce qu'il était un homme pieux. David, même s'il n'a pas été un bon exemple, ça veut dire qu'il avait quand même une relation avec Dieu qui a pu le préserver. Dieu avec David, hein, 1 Samuel 13, verset 13-14, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affirmé pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis quand on étudie 1 Samuel, on voit que David, il avait vraiment un cœur pour Dieu. Il était vraiment bien disposé malgré la faiblesse humaine qui l'a entraîné. Dans le psaume 4, c'est un psaume de David. David, il dit, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux et une femme pieuse. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Donc, je vais arrêter là, puis on va prier. Notre Dieu, on te remercie pour ces enseignements qui nous servent d'avertissement, qui vont nous préserver de suivre les tentations puis d'aller dans le péché. On a un modèle en David parce que c'était un homme pieux qu'on peut imiter. Aide-nous aussi d'avoir parmi nous des hommes pieux, des femmes pieuses qu'on peut imiter. Puis on te prie de bénir cette parole qu'on a entendue ce matin, qu'on puisse en tirer des leçons chacun pour nous. Puis on te prie ça au nom du Seigneur Jésus. Amen.